Bonjour et bienvenue sur Fracture. Fracture, une émission qui vous parle des luttes et d'actualités sociales. Fracture, c'est sur Pulsar 95.9 tous les vendredis. Fracture toujours confinée et on s'excuse pour la qualité audio, pas toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est Katrina à la technique et qui vous parle en ce moment. Et avant de laisser la place à Julo pour une discussion sur Mayotte avec Mathilde, j'en profite pour vous rappeler que ce samedi 30 mai, il y a un rassemblement de prévu à 11h place Notre-Dame en soutien aux sans-papiers qui sont toujours malmenés par la machine à expulser, même en période de Covid. Donc vive la lutte et solidarité avec tous les opprimés.
Bonjour tout le monde, on poursuit notre tour des Outre-mer. La semaine dernière, on faisait le point sur la situation en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique avec Adrien Guillot et Pierre Rodin. L'émission est disponible en podcast sur le site de Radio Pulsar. Aujourd'hui, on reçoit Mathilde Soubry, doctorante en sociologie à l'Université de Poitiers, pour parler de la situation à Mayotte. Mathilde, bonjour.
Bonjour.
Alors, tes recherches portent sur le travail et la mobilité des Mahoraises et des Mahorais vers la métropole. En introduction, on peut citer Annick Girardin, donc la ministre des Outre-mer, qui, donc le 31 mars 2020, soit 15 jours après le début du confinement, a dit pour l'Outre-mer, « Il n'y a pas d'impréparation, ce n'est pas vrai. Les moyens qui ont été mis en place jusqu'à aujourd'hui dans les territoires d'Outre-mer répondent aux mêmes critères, à la même organisation qu'en métropole, que l'on parle de masques, de tests, de respirateurs. » Alors, qu'en est-il réellement sur place ? Avant de parler de la crise sanitaire à Mayotte, tu voulais préciser quelques points sur ce département.
Oui, je vais d'abord préciser où est Mayotte et puis aussi pourquoi c'est un département français et puis je reviendrai sur les conditions de vie à Mayotte qui sont importantes pour comprendre ce que veut dire le confinement là-bas et ce que peut devenir une crise sanitaire. Donc Mayotte, c'est un archipel qui est situé dans l'océan Indien, plus précisément dans le canal du Mozambique, donc c'est-à-dire entre Madagascar et puis la côte sud-est africaine. Elle fait partie d'un archipel, l'archipel des Comores, qui compte quatre îles, Grande Comore, Anjouan, Moélie et puis donc Mayotte. Mayotte est la seule de l'archipel à être français. Le régime colonial à Mayotte, il commence en 1841, quand la France prend possession de Mayotte par un traité de cession avec le sultan malgache qui règne sur l'île à l'époque. À ce moment-là, en fait, la France a surtout Madagascar en ligne de mire et elle est en concurrence avec la Grande-Bretagne qui est très présente dans la région. Donc ça, c'est un enjeu important pour comprendre pourquoi la France s'intéresse à Mayotte. Avant la prise de possession de Mayotte par la France, il y a une histoire politique dans la région. Et l'histoire politique des Comores, elle est très dynamique et elle est rythmée par des conflits entre les différents sultans qui régnaient dans la région. Les Comores, dont Mayotte, ont donc une histoire qui est complexe avant 1841, et puis c'est important de le dire, parce que le discours identitaire maoré, il a tendance à faire de 1841 le début de tout pour Mayotte, et à occulter tout ce qui s'est passé avant, notamment parce qu'en fait, l'île de Mayotte n'était pas en position de force dans ses rapports politiques entre les îles. Dans ce contexte-là, à l'époque, la présence française, elle va déjà peser dans les conflits politiques et dans les hiérarchies entre les îles et entre les populations. Un autre élément important, c'est 1974, parce que c'est l'année où la France a mis en place un vote île par île pour l'autodétermination de la population. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à ce moment-là, la France, au lieu de considérer l'ensemble des votes dans l'archipel, les a considérés séparément en fonction des îles, et il s'est trouvé qu'il y avait plus de voix pour le rattachement à la France à Mayotte, et donc la France a décrété que Mayotte resterait française. C'est une pratique et une décision qui a été contestée, notamment par l'ONU, et qui l'est toujours. L'ONU ne reconnaît pas la présence française. Et donc en 1875, les trois autres îles des Comores déclarent leur indépendance. Voilà, donc ça c'est un élément important, parce que déjà on va avoir une séparation et Mayotte qui rentre dans un processus d'intégration politique très très long parce que la départementalisation elle va avoir lieu uniquement en 2011. Peut-être un point aussi sur la population et puis les conditions de vie. Mayotte, c'est une population de 256 000 habitants. C'est une toute petite île, elle fait moins de 400 km². 48% de la population est étrangère. Alors par rapport à ce qu'on entend habituellement, on entend très souvent dans les médias locaux et puis aussi encore récemment dans les médias nationaux que la moitié de la population serait clandestine. Ce n'est pas le cas, c'est des étrangers. On l'a entendu concernant la crise sanitaire, là, on a entendu dans Le Monde, dans Libération, et puis aussi dans une matinale de France Inter que cette population, la moitié de la population serait en situation irrégulière. Alors c'est pas le cas, c'est seulement une partie, et puis il faut avoir en tête que à Mayotte la population elle est très jeune, hein, la moitié de la population a moins de 18 ans, et qu'on peut pas considérer les mineurs comme des personnes en situation irrégulière, ils ont un statut qui est protégé. Donc en fait on serait plutôt autour de 12% de la population qui serait en situation irrégulière, ce qui est déjà beaucoup. Il faut aussi avoir en tête qu'un tiers des étrangers sont nés à Mayotte. Voilà, donc on peut être né à Mayotte et puis être étranger. Et ça c'est spécifique... Spécifique à Lille, hein, c'est ce qui se passe quand en fait on définit des frontières dans une région, alors qu'il y a énormément d'échanges entre les îles, hein, il y a énormément de mariages, tous les Mahorais ont de la famille aux Comores et tous les Comoriens ont de la famille à Mayotte. Une autre chose qu'on entend aussi souvent et qui est fausse, en tout cas qui n'est jamais étayée, c'est que le recensement de la population serait inexact et donc il y aurait 100 à 150 000 personnes en plus. Il faut savoir qu'il y a une pression démographique énorme, hein, et il n'y a pas besoin de 100 à 150 000 personnes en plus pour que ce soit très difficile. Voilà. Et donc ça, c'est un argument politique qui revient assez souvent en disant que le recensement est inexact. L'INSEE a pourtant une méthode assez spécifique à la réalité de ce territoire et elle semble assez fiable. Sur les conditions de vie, pour comprendre ce que ça veut dire d'être confiné, on verra que c'est très difficile, voire impossible à Mayotte. Quand on regarde l'habitat, on a 43% des résidences qui sont constituées de matériaux fragiles, principalement de la tôle ou des matériaux végétaux. Et c'est majoritairement des Comoriens qui vivent dans ces logements. On a aussi une part importante de logements où il n'y a pas d'accès à l'eau courante à l'intérieur du logement, parce que l'eau courante, ça concerne, dans le logement, ça concerne que 70% de la population. En 2011, 84% de la population vivait sous le seuil de pauvreté nationale. Et puis la moitié de la population vivait avec moins de 389 euros mensuels par unité de consommation, ce qui est considérable. Le chômage, il est très important, il est à 35% sur l'île et il augmente. Et donc on a, on le verra tout à l'heure, un travail informel qui prend énormément de place et qui concerne une grande partie de la population pour accéder à des ressources. Un autre élément important aussi, c'est un système de prestations sociales qui existe à Mayotte, mais dont les montants en fait sont minorés par rapport à la métropole et par rapport aux autres départements d'outre-mer. Les montants des prestations sociales ne sont pas les mêmes, sont vraiment en dessous de ceux qu'on peut connaître ailleurs.
Donc on voit qu'ici, donc Mayotte, c'est vraiment un département d'outre-mer très particulier, différent de la métropole et différent des autres départements d'outre-mer. Alors justement, par rapport à notre sujet là, sur la crise du coronavirus, quel lien en fait tu peux faire entre le système de santé sur l'île de Mayotte et puis justement cette crise sanitaire liée au Covid-19?
Oui, effectivement, il faut voir à peu près à quoi ressemble le système de santé sur place et puis ce qu'est la réalité de l'accès aux soins. Alors à Mayotte, c'est un désert médical parmi les déserts médicaux, hein, on a très peu de personnel soignant. C'est 80 professionnels de santé, alors qu'en métropole, on est à 340, donc c'est 4 fois moins qu'en métropole. 48 généralistes, c'est des effectifs pour 100 000 habitants, hein. 48 généralistes, alors qu'en métropole, on est à 153. 32 spécialistes de santé contre 175 en métropole, ce qui est 5 fois moins. Et puis c'est important aussi de regarder les effectifs des infirmiers et infirmières, parce que c'est des personnels, on a vu que c'était des personnels importants dans la crise. À Mayotte, on est à 315 infirmiers et infirmières contre 1053 pour 100 000 habitants en métropole. Donc c'est 3 fois moins. Le centre hospitalier de Mayotte, il fonctionne avec 4 centres de soins et d'accouchement qui sont répartis sur le territoire et 12 centres de soins périphériques qu'on appelle les dispensaires. Donc il y a à la fois une offre de soins libérale, mais qui est très faible, et puis il y a le centre hospitalier de Mayotte, le CHM, qui a une place très importante sur le territoire et donc avec ses différents centres périphériques. un élément qui est important pour comprendre comment on peut prendre en charge notamment les situations les plus délicates, parce que Mayotte, on ne peut pas tout faire, toutes les spécialités n'existent pas. Depuis le 2004, il y a un programme d'évacuation sanitaire, d'EVASAN, qui est mis en place, principalement vers La Réunion, mais éventuellement aussi vers la métropole, si besoin. C'est 1 000 à 1 200 évacuations sanitaires par an. C'est un programme qui devait prendre notamment aussi en charge les maladies chroniques à la base, mais qui prend principalement en charge les urgences pour être traitées à La Réunion et en métropole. Et parmi ces cas, et ben, il y a un tiers de mineurs qui sont pris en charge, notamment des mineurs dont les parents sont étrangers et qui ne peuvent pas les accompagner. Donc ça, c'est aussi une problématique dans le suivi médical, des jeunes qui doivent partir seuls sans leurs parents, voire des très jeunes, des très petits enfants. Voilà, on voit à peu près le paysage médical et on comprend les difficultés d'accès aux soins, mais il faut aussi regarder du côté du droit à l'accès aux soins. Et en fait, à Mayotte, on a une population qui est très pauvre, et l'exonération du ticket modérateur qui existe en métropole depuis l'instauration de la sécurité sociale, à Mayotte, il a commencé à être mis en place seulement l'année dernière, et ça devrait se terminer en 2021. Et donc c'est seulement depuis l'année dernière que les plus bas revenus peuvent être entièrement exonérés du ticket modérateur et donc ne pas avoir à le payer. D'un autre côté, on a aussi une part importante de la population qui est en situation irrégulière, et à Mayotte, l'aide médicale d'État, elle n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve en métropole et dans les autres départements d'outre-mer, mais à Mayotte, elle n'est pas mise en place. Les personnes qui n'ont pas de situation administrative régulière doivent payer un forfait de 10 euros quand ils vont à une consultation au dispensaire. Évidemment, ils ne vont pas chez le généraliste parce qu'il faudrait s'acquitter du tarif d'une consultation. Donc voilà à peu près ce qu'est l'accès aux soins, assez difficile à Mayotte. En ce qui concerne plus précisément l'épidémie, il faut savoir que en fait l'épidémie de Covid-19, elle est venue se surajouter à une épidémie de dengue qui est particulièrement aiguë cette année. C'est une épidémie qui a commencé en décembre. Et donc il y a en fait sur la période du 1er mars à début mai de cette année, il y a une forte augmentation de la mortalité qui, selon l'ARS, ne serait pas spécifiquement due au Covid-19, mais surtout à la dengue. La prise en charge et puis de la dengue, elle a été certainement un peu tardive, parce que le niveau 4, qui est un niveau d'intensité moyen, il a été déclenché le 6 mars. Donc il y a eu un début de lutte, c'est-à-dire qu'on a, l'ARS et puis la préfecture ont mis en place des moyens pour traiter à l'aide d'insecticides de manière préventive ou vraiment pour lutter contre la propagation du virus, dont le moustique est le vecteur. Donc il faut traiter par insecticides, les populations ne peuvent pas forcément le faire, c'est un coût en plus. Voilà, donc, et cette épidémie de dengue, elle sévit toujours. Donc c'est un élément important pour comprendre aussi les effets de saturation du système médical, même si la dengue est très peu prise en charge. Hein. A priori, le CHM, le centre hospitalier, ne prend quasiment pas en charge les malades de la dengue. Enfin, moi, des échos que j'ai eus, il y a des personnes qui sont refoulées. Alors, la dengue, il faut savoir que ça dure plus ou moins une semaine, mais une bonne semaine, c'est des fièvres intenses, des douleurs, des céphalées très, très dures. Et même si on est jeune et en bonne santé, il y a aussi un risque de déshydratation. Voilà. Donc c'est pareil, les chiffres mentionnés par l'ARS, ils sont certainement largement sous-évalués. Hein. Au 6 mai, on était à 3648 cas. Alors ça ne comptabilise pas les cas traités par les généralistes, mais ça semble relativement faible. Pour ce qui concerne le Covid-19, en fait, le premier cas, il a été déclaré le 14 mars par l'ARS. Et en fait, le 14 mars, ça correspond au retour des vacances scolaires à Mayotte. Et c'est un cas qui a été importé de métropole. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des mesures de confinement au domicile des personnes, voire à l'hôpital s'il y avait un besoin. À partir du 23 mars, on est passé à quasiment 10 cas par jour de manière régulière. Et puis, il y a eu un décès. Et après, les bilans mensuels, ils montrent une augmentation très importante du nombre de cas. Hein. Au mois de mars, c'était 80 cas testés avec 10 hospitalisations et un décès. Alors, il y a eu 500 tests d'appliqués sur le mois de mars, c'est très peu. En avril, on était à 460 cas avec 36 hospitalisations, donc 4 en réanimation et 4 décès. À ce moment-là, le nombre de tests réalisés, c'était 2700. Et jusqu'au 13 mai, c'est 1210 cas avec 50 hospitalisations, dont 10 en réanimation et 16 décès pour 5000 tests au 13 mai. Alors, est-ce que les tests sont suffisants? Et on peut se poser la question parce que vu les difficultés, on le verra, les difficultés de confinement, on peut supposer que le virus circule très activement sur l'île.
Donc le mensonge de la ministre des Outre-mer, en fait, il reflète le mensonge de la métropole. C'est vraiment, on est sur la même logique de « vous inquiétez pas, tout est prêt, les tests, les masques, etc. » Et en fait, on se rend compte que dans des territoires comme le département de Mayotte, où la situation, le système de santé est très précaire, eh bien, de fait, la crise est d'autant plus forte.
Ouais, alors pour le coup, peut-être que pour la ministre, c'était pas le meilleur argument pour dire qu'il y a une bonne gestion, de dire qu'il y a la même gestion qu'en métropole, parce que a priori en termes de tests et en termes de matériel, c'était pas suffisant. Alors il semblerait qu'il y ait eu quand même pas mal de matériel, de masques qui ont été acheminés assez rapidement à Mayotte, mais les capacités de tests, elles sont limitées, elles sont vraiment très limitées, et on peut pas se fier. En fait, c'est compliqué de se fier au cas testé parce qu'il y a eu une consultation à l'hôpital ou chez le médecin, parce qu'en fait on a une population qui est tellement jeune que potentiellement la part de la population qui est porte saine, comme sont les enfants ou les très jeunes, qui ont des symptômes peu visibles, voire très similaires à la dengue, parce qu'en fait c'est ça, hein, on est sur la dengue, on a aussi des douleurs respiratoires, ben, en fait ça passe complètement inaperçu, donc c'est... Ouais, enfin, c'est vraiment pas du tout le meilleur argument de sa part, quoi, pour rassurer la population. C'est certainement vrai ce qu'elle dit. Il n'y a certainement pas de grosses différences de prise en charge, même si du coup elles correspondent pas non plus à la réalité sur place. Est-ce que le confinement c'est pertinent? On peut se poser la question. Enfin, on peut en discuter. Faut voir. Il faut regarder comment il peut être appliqué, et c'est très compliqué.
Par rapport à cette capacité donc de soins, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait un hôpital de l'Est qui serait démantelé pour être rapatrié...
de l'Est de la France.
De l'Est, ouais. De la France.
Ça a été annoncé, mais il n'est toujours pas arrivé. Mais il semblerait, ouais, qu'il soit envoyé à l'hôpital militaire. Là, je ne sais plus comment l'intitulé précis.
L'hôpital de campagne.
Voilà, l'hôpital de campagne devrait être envoyé à Mayotte, mais il n'est toujours pas arrivé. Donc c'est à voir quand ce sera installé et puis quelle fonction il aura dans le relais avec le centre hospitalier sur place.
Donc ça suppose que les autorités prévoient la continuité de l'épidémie.
Bah là, a priori, vu l'augmentation, parce que depuis mi-mai, on est à 20 cas par jour. Quand même beaucoup, on a dépassé les 1600 cas aujourd'hui. Alors pour la moitié de ces cas, les personnes sont rétablies, mais on est dans une augmentation constante. On est à des effectifs de 39 hospitalisations, 19 décès. Et puis là, il y a eu des évacuations sanitaires spécifiques vers La Réunion. Deux cas de Covid-19, il y en a eu plusieurs, il y en a eu 5, justement pour faciliter un peu les prises en charge.
Alors sur la lutte contre l'épidémie, donc le 17 mars, Macron a annoncé le confinement en métropole. Qu'est-ce qu'il en est à Mayotte?
Alors Mayotte, c'était au niveau 2, en fait. Donc à ce moment-là, le 17 mars, le virus ne circulait pas activement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de transmission qui permettait de sur place des transmissions au sein de la population. Mais le confinement a quand même été annoncé et appliqué à Mayotte. Alors il y a eu plusieurs rapatriements, hein, de Français qui étaient dans des pays de l'océan Indien, notamment Madagascar, les Comores et puis Maurice aussi. Donc il y a eu des rapatriements dans la région vers Mayotte, avec des mises en quatorzaine préventive. Puis le jour même, il y a eu les reconduites à la frontière. En fait, elles ont été stoppées dès le premier jour du confinement. Alors la préfecture, moi j'avais vu ça sur Mayotte Première, la préfecture avait quand même essayé d'envoyer le matin du confinement un bateau pour reconduire, je ne sais pas quels sont les effectifs, mais de reconduite aux Comores, et en fait les Comores ont refoulé ce bateau, donc ils sont venus et ils ont dû relâcher les personnes a priori. Donc les Comores n'admettaient plus de reconduite à la frontière, c'est toujours un enjeu. Hein.
On se fait une petite pause musicale avec M. Toro Chamou et le titre Mwenge.
dos à tout le monde. Ou n'a mis là, n'a mwenge wapata. Mwenge wahe ou no leo. Urpatia, ronenzia zatwey. Oa.
Mambo na urembo, maore watombo.
Ronenzia zatwa na nyangwey. Ulanzi anje maenza mwafaka. Zenza mwafaka na sele uwa. Gila ya tui sibaki shizani. Uwa.
Mambo na urembo, maore watongo.
Maori ya basaba nkaisa hate na mandalade. Kani ya basaba na ibuwe macho iwone tongo. Mwenge na uwale. Wanatsa watawale. Mwenge na uwale. Wanatsa watawale. Maori ya basaba nkaisa hate na mandalade.
On sait que la question migratoire, c'est un enjeu politique pour la France, et tu disais très bien avec la relation qui est parfois compliquée avec les Comores. Du coup, qu'est-ce qu'il en est de la machine à expulser ?
Les interpellations suivies d'incarcération au centre de rétention administrative ont été stoppées. Par contre, a priori, alors c'est compliqué parce qu'en fait, la préfecture ne communique pas sur ces questions. La CIMAD et Médecins du Monde ont interpellé la préfecture en disant que c'était un élément important, qu'il fallait communiquer là-dessus, que les personnes devaient être au courant de savoir si elles avaient un risque, si elles sortaient d'être interpellées ou pas. Leur lettre est restée sans réponse. A priori, moi, de ce que j'ai compris par voie de presse et puis des nouvelles que j'ai sur place, c'était très peu de contrôle d'identité. A priori, la préfecture transmettait quand même des obligations de quitter le territoire français. Alors la particularité à Mayotte, et puis peut-être pas uniquement, mais en tout cas c'est spécifique à Mayotte, il y a beaucoup de personnes au moment de leur interpellation en fait n'ont pas leur papier sur eux, ne donnent pas leur vrai nom, parce que le but c'est quand même de revenir le plus tôt possible. Les personnes repartent aux Comores et reviennent en quoi ça, dans la semaine, le lendemain et très vite. Donc on ne donne pas forcément ces papiers à la police, ces vrais papiers. On donne une autre identité pour ne pas avoir une obligation et une interdiction de retour sur le territoire français à son propre nom, dans la mesure où potentiellement on peut faire des demandes de papier auprès de la préfecture, une demande de régularisation, et donc s'il y a eu une interdiction de retour sur le territoire français, c'est complètement compromis. Voilà. Donc ces OQTF, elles ont une valeur un peu relative, hein, c'est pour une partie de la population, tout le monde ne fait pas ça. Voilà, donc ça, moi j'ai trouvé une annonce hein, le 14 mai du sous-préfet en charge à la lutte contre l'immigration clandestine, puisqu'à Mayotte, il y a un sous-préfet depuis 2018 qui est chargé de la lutte contre l'immigration clandestine. Voilà, donc où il annonce qu'il n'y a pas qu'il y a des OQTF, mais pas de placement en centre de rétention. Et en même temps, il dit qu'il y aurait une dizaine de personnes en centre de rétention. Alors j'ai pas très bien compris, l'interview était moyennement menée peut-être. Donc bah là, forcément, ça met à mal les objectifs de la préfecture, puisque depuis 2018, les objectifs en termes d'effectifs de reconduite, ils ont été revus à la hausse et ils sont fixés à 25 000 par an. La préfecture compte sur 25 000 reconduites à la frontière par an. Alors la préfecture est très contente, parce qu'en 2019, elle a déclaré avoir reconduit 27 000 personnes à la frontière. C'est un enjeu important parce que dès qu'il y a des tensions sociales et des crises sociales à Mayotte, l'immigration est pointée du doigt comme responsable de tous les problèmes, notamment de la violence. Et donc la réponse de l'État, conjointement avec la préfecture, c'est de dire d'accord, on va prendre les mesures. Et c'est voilà, une forme de satisfaction, ça aboutit à peu près toujours à ça. Si on va prendre des mesures contre l'immigration, qui est responsable de tous les maux, alors, Mayotte, c'est un désert médical, mais ce serait à cause de l'immigration clandestine, voire régulière aussi, hein, parce qu'elle est aussi parfois mise en cause. Et puis, en termes d'emploi, en termes de prestations sociales, enfin voilà, tous les dysfonctionnements seraient de ce fait-là. Donc, c'est une réponse importante de la part de l'État de dire qu'on va lutter contre cette immigration.
Alors, sur la question migratoire, il y a un point que tu m'as évoqué tout à l'heure hors antenne. Le rapport entre Le Drian et puis les Comores.
Ouais, alors Le Drian, en fait, la semaine dernière, au ministère des Affaires étrangères, il a demandé aux Comores de réadmettre les reconduites, c'est-à-dire d'accepter les reconduites aux Comores. La population étrangère à Mayotte, il faut savoir que c'est majoritairement à plus de 90% des Comoriens, et les reconduites, elles se font aux Comores. Donc Le Drian a demandé la semaine dernière aux Comores à ce qu'ils réadmettent les reconduites à la frontière. Alors moi, j'ai pas vu trace de réponse de la part des Comores. On est lundi 25 mai. Le confinement, il est pas annoncé comme levé par la préfecture, mais la préfecture annonce un desserrement des contraintes. Concrètement, c'est un déconfinement, parce que tous les magasins sont réouverts, on est jour de l'Aïd aujourd'hui, tout le monde est dehors, ça fait déjà plusieurs jours, parce qu'à l'Aïd, on fait beaucoup d'achats, on offre des cadeaux, donc ça, c'est quelque chose d'important. Et il semblerait, moi, de ce que j'ai compris, que les interpellations aient repris par la police aux frontières. Les nouvelles que j'ai eues ce matin... De Mayotte, ce que j'ai compris, c'est que la police aux frontières reprenait les contrôles. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure il peut y avoir des reconduites. Est-ce que les personnes interpellées vont être testées? Vu le peu de tests encore qu'il y a pour le moment, ça serait assez surprenant. Ou alors mis en quatorzaine, ce qui serait une mesure, ça veut dire 14 jours dans le centre de rétention pour donner des gages aux Comores et pour que les Comores puissent accepter à nouveau. Mais ça, on n'en sait rien, c'est vraiment que de la déduction. Mais a priori, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, depuis ce matin, la police aux frontières, elle contrôle à nouveau.
Et vu comment l'État français s'occupe des sans-papiers, que ce soit en métropole ou ailleurs, c'est une hypothèse qui peut être réelle, dans le sens où on mettrait plus de moyens pour expulser des gens que pour les protéger sur place, notamment avec l'usage des tests dans les CRA.
Bah oui, et puis là, en fait, elle est urgente parce que il y a deux semaines, Annick Girardin, donc la ministre des Outre-mer, a déclaré que les violences avaient diminué de 40% à Mayotte. Les collectifs citoyens à Mayotte sont montés au créneau, et donc la crainte, c'est qu'il y ait encore des formes de mobilisation et des blocages de l'île dans une situation qui est quand même très compliquée. Alors, donc Girardin, elle est venue deux jours. C'est pour cette raison qu'elle est venue, hein, c'est pour prendre un peu la température et pour voir. Alors, elle a visité, elle a l'hôpital, elle a apporté du matériel et puis elle est venue dire qu'il y avait eu un malentendu et qu'elle voulait pas du tout contester ce que pouvaient vivre les Mahorais. Voilà. Mais il y a une très forte crainte. Et comme violence égale immigration et immigration égale violence, bah, pour calmer les tensions, je pense qu'il y a du côté, voilà, du côté de l'État, il y a une urgence à reprendre pour acheter une forme de paix, quoi, pour contenter en tout cas certaines protestations qui visent l'immigration comorienne.